Béni soit le Seigneur pour ces moments, ces temps de louange, d'adoration, d'action de grâce. Voilà, je vous invite à faire deux lectures préliminaires. Il y en a certainement d'autres qui vont suivre en cours de méditation. Donc nous lirons tout d'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 14. Romains, chapitre 8 et le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Et nous retrouverons une pensée similaire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, et au verset 4, où il est écrit ceci, Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi et que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, pour ceux qui étaient là mardi soir, à la réunion d'évangélisation, nous avons parlé des diverses composantes du salut. Parmi lesquelles composantes du salut, il y a l'adoption dont nous avons bénéficié en Jésus-Christ. L'adoption divine, c'est quoi ça? Eh bien, c'est le fait que par la foi en Jésus, Dieu est devenu notre Père. Alléluia. Et vous voyez, c'est quelque chose de particulièrement remarquable parce qu'il y a eu un changement de paternité qui s'est effectué dans notre vie. Jésus dira à ses contemporains, notamment aux chefs religieux avec lesquels il était en débat, « Vous avez pour père le diable ». C'était là notre condition initiale, à tous et à chacun, spirituellement parlant, même si nous n'avions pas le diable dans la peau, comme on dit, nous avions pour père spirituel, le diable, c'est lui qui régissait, qui commandait, qui tirait les ficelles dans notre vie. Mais un jour, la grâce de Dieu est venue, amen, et nous qui avions pour père le diable, maintenant nous avons pour père Dieu, alléluia. Nous avons pour père Dieu et nous sommes devenus ses enfants légitimes. Et je pense qu'il est important de connaître Dieu, voyez-vous, d'une manière personnelle en tant que père, avec ce que cela signifie, ce que cela représente, parce que si... Nous concevons, non pas seulement cérébralement, mais d'une manière spirituelle, avec notre cœur, Dieu en tant que Père, cela aura des conséquences bénéfiques quant à l'état de notre relation, de notre communion avec lui. Les Juifs de l'époque de Jésus pouvaient comprendre que Dieu était le Père de leur nation, le Père du peuple d'Israël, et que, eh bien, ils tiraient de lui leur origine, même si ça s'était fait par le biais d'Abraham, leur ancêtre. Mais pour les Juifs de l'époque de Jésus, s'approprier la paternité de Dieu d'une manière personnel, individuel, ça c'était inconcevable. Ça c'était révolutionnaire. Et quand ils ont entendu Jésus commencer à dire ceci, quand vous priez, dites « Notre Père, notre Père », cela a dû être pour eux certainement un grand sujet d'étonnement. Alors pour définir, voyez, cette notion de Père, eh bien, Jésus a cité cette parabole du fils prodigue, hein, que nous connaissons fort bien, que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, et même si vous la connaissez presque par cœur, permettez-moi de la lire pour vous encore ce matin. Il est écrit ceci, donc Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires, de domestiques, chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus bel habit et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. La parabole du fils prodigue. C'est un texte qui est souvent utilisé dans les réunions d'évangélisation et à juste titre d'ailleurs, au travers de cette parabole, nous incitons les pécheurs perdus, ceux qui ne connaissent pas encore la grâce du Seigneur, à venir vers lui pour être pardonné, pour être sauvé, pour recevoir la vie éternelle. Mais je crois qu'il y a là aussi un enseignement pour la vie spirituelle des croyants, pour la vie spirituelle de ceux qui déjà ont été rachetés par Christ et qui lui appartiennent. Et ce matin, si vous voulez bien, nous parlerons plutôt du Père que du Fils de la parabole, plutôt du Père que du Fils. Parce que ce Père, il est formidable, voyez. D'abord, nous voyons que c'est un personnage qui, eh bien, ma foi, a de la richesse, hein, il a du capital, il a une propriété, c'est un homme aisé sur le plan matériel, sur le plan financier. Je dirais ça suggère que notre Dieu est riche, savez-vous cela? Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Attention, pas forcément pour faire de nous des milliardaires, non. Mais il veut enrichir notre vie intérieure, notre vie spirituelle, par sa grâce et sa présence. C'est aussi un père généreux. Il leur partagea son bien. Son bien, voyez. Alors que ce fils, manquant totalement de respect, demandait la part d'héritage qui lui revenait, ce père n'a pas tergiversé, il n'a pas discuté, il n'a pas contesté, non, il leur partagea son bien. C'était aussi un homme, un père extrêmement patient, parce que je ne sais pas combien cette affaire a duré, des mois, des années peut-être, mais ce père a attendu, a espéré le retour du fils prodigue. Pourquoi l'a-t-il aperçu là-bas, au détour du chemin, alors que ce fils revenait? Parce que certainement, chaque jour, il devait guetter, il devait espérer le retour du fils. Il était plein de patience, il était plein de générosité, nous l'avons dit, il était plein de miséricorde. Il accueille, il pardonne, il réhabilite et il restaure la relation brisée avec son fils repentant. Voyez-vous ça? C'est Dieu. Alléluia. Un Dieu, un Père qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Un Père qui est généreux, qui dispense ses grâces et ses bienfaits avec abondance. Un Père qui est patient. Combien Dieu est patient à notre égard. Un Père qui est miséricordieux, qui nous accueille, qui nous pardonne, non pas seulement lorsque nous venons à lui pour la première fois, mais au cours de notre parcours spirituel, lorsqu'encore des choses ont besoin d'être réglées. Il est prêt à faire grâce, à pardonner, à pardonner, à pardonner encore toutes les fois où tu viendras de tout ton cœur, sincèrement, te repentir devant lui. Il restaure la relation brisée. C'est ce genre de Père que nous avons en Dieu. Il nous a fait grâce. Il nous a introduits dans sa famille. Quel amour! Quel amour! Je crois que nous avons du mal à percevoir l'amour de Dieu, chers amis. Et pourtant, la parole de Dieu dans l'épître, la première épître de Jean, laissez-moi le lire pour vous, nous dit ceci au chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Parfois, il y a des chrétiens qui se déprécient, il y a des chrétiens qui se méprisent pour toutes sortes de raisons. Il y a des chrétiens qui se dévalorisent parce qu'ils trouvent qu'ils manquent de ceci, de cela. Ils n'ont pas toutes les compétences, les capacités, les qualifications ou les dons même qu'ils voudraient avoir. Mes chers amis, regardez-vous dans la glace et dites-vous tous les matins, je suis un enfant de Dieu. Ah, certainement j'ai des progrès à faire. Certainement que je suis loin d'avoir encore obtenu de mon Père tout ce qu'il est désireux de m'accorder dans sa grâce. Certainement que j'ai besoin bien souvent de m'humilier devant lui. Mais je suis un enfant de Dieu, objet de son amour. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, voyez, il enfonce le clou, l'apôtre Jean. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous serons rendus semblables à lui. Vous vous rendez compte? Être comme Dieu. On ne devient pas Dieu, mais on lui ressemble. Déjà, la Bible nous dit que nous sommes rendus participants de la nature divine. Voyez, il nous a donné et communiqué son nom. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais il va plus loin encore. Il nous accorde sa nature divine. Mais ce qui n'est réalisé que partiellement actuellement sera réalisé parfaitement dans l'éternité. Nous serons rendus semblables à lui. On dit tel père, tel fils. Eh bien, mes amis, c'est ce qui se produira dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est le résultat. Et ce sera le résultat de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Père céleste. Vous voyez, dans la parabole du fils prodigue, il y a l'histoire du fils prodigue, de ce chenapan là qui est parti faire les 400 coups. Mais il y a l'histoire aussi de l'autre fils, vous avez remarqué ? Du fils aîné. Et lui, il n'y avait rien compris. Il ne connaissait pas vraiment son père. D'où sa dureté de cœur. Il ne partage pas les sentiments, les émotions du père. Il l'a servi, certes, son père, mais avec une mentalité d'esclave, de domestique, de serviteur plutôt que de fils, sans amour, par devoir, par obligation. Et son cœur était plein d'amertume et de frustration. Il n'avait pas compris que tous les biens de son père étaient à sa disposition. Que Dieu nous garde d'avoir un tel état d'esprit, chers amis. Il y a parfois, hélas, dans nos églises, des chrétiens qui se sont laissés remplir d'amertume, d'aigreur, voyez. Ils ont perdu de vue la réalité de cette relation que le Seigneur a voulu établir avec eux en tant que père. Et ils ressemblent, quelque peu ou beaucoup, à ce fils aîné. Il y a parfois dans les églises des gens qui sont durs de cœur. Il y a parfois des gens qui prétendent servir le Seigneur, mais qui le font sans amour. Simplement, je ne sais pas, avec un zèle amer, comme dit l'Écriture. Ils sont pleins d'amertume, d'aigreur et de frustration. Ils sont malheureux. Ils traînent leur vie chrétienne comme un boulet. Non, mes amis, ce n'est pas comme ça qu'il faut considérer les choses. Et si vous apercevez ce matin, en toute honnêteté, en toute sincérité, que tel est l'état de votre cœur, venez vers le Seigneur et demandez-lui qu'il renouvelle en vous la joie du salut, la joie d'être en communion avec Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, lisez l'Écriture, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il est capable de restaurer, alléluia, la relation qui a été brisée par le péché. Le péché, ce n'est pas forcément l'adultère, la fornication, le vol, la fraude et je ne sais quoi encore, non. Le péché, c'est parfois simplement quand nous avons perdu de vue, eh bien, l'importance de cette communion avec Dieu qui doit être le centre de notre vie chrétienne. Même vous, mes amis, qui avez des fonctions dans l'Église, qui venez sur cette estrade pour diriger les chants, pour lire la parole, pour préparer la Sainte Cène, pour la distribuer, pour être musicien, sonoriste ou je ne sais quoi encore à la bibliothèque ou ailleurs. Là n'est pas le plus important. Non, non, non. Le plus important dans ma propre vie n'est pas ma fonction de prédicateur, mon ministère de pasteur, non. Le plus important, c'est l'état de ma relation personnelle avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que je suis devant vous, c'est ce que je suis devant lui, Dieu, quand je suis seul avec lui. Et si j'ai perdu le sens de ma communion, de ma relation avec lui, alors mes amis, il y a quelque chose qui cloche, j'ai tout faux sur toute la ligne. Voyez, c'est ça qu'il faut considérer, parce que nous le savons, l'Éternel regarde où ça? À la couleur de la cravate? Non, 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 au cœur, au cœur. Et que nous ayons ce cœur de fils, alléluia. Ce cœur de fils bien-aimé, alléluia. Pas de fils parfait, non, non. Mais de fils bien-aimé, parce qu'il a affaire à un père plein d'amour. D'où l'importance, répétons-le, de bien connaître notre Père céleste, tel qu'il est vraiment, et non pas tel que nous pourrions l'imaginer. Certains peuvent avoir du mal, c'est vrai, à réaliser que Dieu est Père. Parce que, ils n'ont pas de référence en la matière. Voyez, je me souviens de ce prédicateur, c'est pourtant un homme de Dieu remarquable qui a un ministère fécond et béni, mais il a eu une enfance fracassée. Voilà. Sa mère, je crois, l'a élevée toute seule, elle a fait la pauvre femme comme elle a pu, et il est devenu un délinquant jusqu'à ce que Dieu le touche. Et lorsque cet homme s'est converti, puis qu'il s'est marié, qu'il a eu son premier enfant, il était là, tenant le bébé dans les bras et disant, « Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Parce que je ne sais pas comment il faut se comporter en tant que père. On ne m'a jamais appris ça. Je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de vrai papa. Alors aide-moi. » Vous voyez, il avait du mal à comprendre ce que pouvait être un père. Parfois, il y a des gens, hein, des chrétiens même, qui ont vécu ça. Père inconnu, père absent, parce que le foyer des parents a éclaté. Orphelin peut-être, ou alors père indigne. Je me souviens de cette jeune fille qui disait à propos de son père, « Ça n'est pas mon père, c'est simplement mon géniteur. » Vous voyez un petit peu où elle en était quant aux relations avec son père. C'est vrai que pour se construire une personnalité équilibrée, l'image du père est importante. Mais ce matin, nous avons pour vous une bonne nouvelle. Alléluia! C'est que Dieu veut être ce bon cet excellent Père que peut-être vous n'avez pas eu, que son nom soit béni. et il est capable de pallier aux carences affectives que vous avez pu connaître et de vous aider à vous reconstruire, parce que c'est un bon, un excellent père. Et puis, si par ailleurs pour d'autres, vous avez eu le privilège, c'en est un privilège, d'avoir un bon père humain et terrestre, sachez que votre Père Céleste, il est encore meilleur. Il est encore meilleur parce qu'il est parfait. Béni soit ton nom. Nous connaissons ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Vous savez, Jésus dit ceci parlant de la prière quand tu pries. Il ne dit pas si tu pries, parce que pour lui ça va de soi. Un disciple de Christ prie. Quand tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 6, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Dieu? Eh bien, parce que ce Dieu-là est devenu ton Père. Il définit ainsi, en l'appelant Père, la qualité de notre relation avec lui. Savez-vous que Dieu est le Dieu de tous les hommes? Vous savez ça? Même ceux qui sont incroyants, athées, ça veut dire sans Dieu, ils ont un Dieu. Que ça leur plaise ou non. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, un jour tout genou fléchira et toute langue confessera, etc., etc. Tout le monde a un Dieu. Tout le monde a Dieu pour Dieu. Mais Dieu n'est le Père que de ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et au verset 12, nous trouvons cette parole bien connue, bien citée, n'est-ce pas, où il dit ceci, « À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Au moment où j'ouvre mon cœur, au moment où je reçois Jésus comme mon sauveur par la foi, me réfugiant en lui pour être sauvé, pardonné, hérité de la vie éternelle, Dieu devient mon Père. Dieu devient mon Père. En se définissant comme notre Père, il s'est engagé envers ses enfants à assumer ses responsabilités paternelles. Les papas qui sont au milieu de nous savent, en tout cas ils doivent savoir, mes frères, si vous avez des gosses, vous avez des responsabilités envers eux, oui ou non? Et il faut les assumer correctement. Eh bien Dieu, en se définissant comme père, il est aussi celui qui assume ses responsabilités paternelles, notamment, il pourvoit à nos besoins. Amen. Vous voyez? Parce que le Seigneur sait que nous vivons encore sur la terre, hein? Il ne nous dit pas, écoute, tu as une place dans le ciel, en attendant, débrouille-toi comme tu peux. Non, non, pas du tout. Dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, Jésus parle des besoins de la vie ordinaire, besoin de se nourrir, besoin de se vêtir, etc., etc. Et il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et parce qu'il sait, il pourvoit, mes amis. Parce qu'il sait, il pourvoit. Faites confiance à Dieu dans le domaine matériel. Soyez fidèles envers Dieu dans le domaine matériel et vous toucherez du doigt. Vous vérifierez l'infinie fidélité de Dieu. Il fera toujours plus pour vous que vous ne pourrez faire pour lui. Dieu n'est le débiteur de personne. Et nous, toujours, n'est-ce pas, qui serons reste parce qu'il aura toujours fait plus que ce que nous aurons fait nous-mêmes. Il pourvoit nos besoins en tant que Père. Il éduque notre Père. Parfois même, il rééduque. Hein? Parce que quand on vient au Seigneur, des fois, on est tout cassé de partout. Pas seulement physiquement, mais moralement, psychologiquement, etc. Alors, il nous rééduque. Hein? Quelque part, il est écrit dans les Épîtres, « Père, élevez vos enfants ». on n'élève pas des gosses comme on élève des poulets en batterie, là. Hein. Élever, ça veut dire aider-les à grandir. Et c'est ce que Dieu fait, mes amis, pour nous. Il nous prend par la main. Il y a des images formidables dans la Bible. Hein. Il y a un texte qui me revient à l'esprit, je ne sais pas trop où le trouver, mais je le cite comme ça de mémoire, où il dit que Dieu a pris Éphraïm, c'est une des 12 tribus d'Israël, et il l'a soutenu par ses bras, vous voyez, comme un papa qui apprend son enfant à marcher, vous savez, quand il fait les premiers pas, c'est un petit peu chancelant, hein. Alors, on prend le bébé, le poupon, là, qui n'est pas encore très solide sur ses jambes, et on le soutient par les bras pour l'apprendre à marcher, pour l'apprendre à faire ses premiers pas. C'est comme ça que Dieu nous traite. C'est un bon papa. Il veut s'occuper de nous, manifester ses tendres soins. Il éduque, il protège. Il assure la sécurité. Et puis aussi, il faut le dire, et pas l'oublier, il corrige. Qu'est-ce que c'est que ces gamins qui sont élevés sans discipline? Vous voyez, quand on était dans le midi, il y a eu un frère un jour qui a eu l'excellente idée de vouloir planter des arbres sur le parking. Parce qu'en été, en Avignon, je vous assure, il fait chaud. Et quand le soleil a dardé ses rayons sur une voiture pendant 2 heures du culte, que vous sortez de là, c'est le sauna. Hein. Alors on a planté des arbres, mais on les a plantés petits. Et en Avignon, il y a le Mistral qui souffle fort. Et pour que les arbres ne poussent pas tordus, on a mis quoi? Un tuteur, pas un petit piquet, un truc solide, vous voyez. Bon, après, quand ils sont devenus solides, maintenant grands, le piquet, le tuteur, il n'y est plus. Mais il fallait l'aider à pousser droit à l'arbre, un tuteur. Ça corrigeait la trajectoire que le vent aurait voulu imprimer à l'arbre. Eh bien, Dieu fait pareil. Il nous redresse. Et un gamin, un enfant, il a besoin d'être corrigé. Si tu dis toujours oui, si tu cèdes à tous ses caprices, mais tu vas en faire un inadapté social, un problème majeur pour le pays tout entier. Les éducateurs, les professeurs, le gouvernement s'arracheront les cheveux parce qu'on ne saura plus quoi en faire. Si tu vas en faire un délinquant, déjà tout petit, laisse-lui faire ce qu'il veut. Et si tu veux en faire un homme ou une femme digne de ce nom, corrige-le. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la maltraitance, mais tout de même. Et l'Écriture nous parle de ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. C'est comme des pères que Dieu vous traite. Supportez donc la correction, car il est capable de nous l'appliquer. Non pas pour nous détruire, nous dit la Bible, mais afin que nous participions à sa sainteté, pour nous redresser, pour nous corriger, pour nous donner de retrouver le sens des réalités. Alors il est tout ça, voyez, il est tout ça. Il pourvoit aux besoins, notre Père. Il nous éduque, notre Père. Il nous protège, assure notre sécurité, notre Père. Il nous corrige, notre Père. Ayez donc foi en votre Père céleste. Et adressez-vous à lui. Quoi de plus naturel pour un enfant que de s'adresser à son Père, hein? Et c'est ce que Jésus nous a enseigné, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 7. « Demandez, l'on vous donnera. » Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Eh oui, on peut y aller. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'on ennuie le Seigneur, on lui casse la tête avec nos requêtes, nos supplications. Mais non, mes amis, quand vous demandez à Dieu, vous ne l'ennuyez pas, vous l'honorez. Parce que cela démontre que vous reconnaissez votre dépendance vis-à-vis de lui. Voyez, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de de sa personne. On pourrait dire, mais pourquoi demander? Puisque de toute façon, il sait toutes choses. On l'a dit tout à l'heure, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais justement pour ça. Parce que le fait que nous lui demandions, n'est-ce pas, c'est une manifestation de notre attitude d'humilité, du sentiment que nous devons avoir, de dépendance vis-à-vis de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi, et sans toi, je peux rien, je suis rien. J'ai tout entièrement besoin de toi, et ça, ça l'honore, ça le glorifie, ça réjouit son cœur, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir. Alors, vous voyez, il faut insister dans la prière, persévérer, y aller crescendo, hein, demander, chercher, frapper. Il y a une progression dans ces verbes, comme un enfant sait le faire. Un enfant sait être précis et insistant. Vous avez remarqué ça? Quand un gosse veut quelque chose, « Papa, je veux un vélo pour Noël », il ne vous le dira pas une fois et puis c'est tout. Hein? Et si vous, vous avez oublié, lui, il n'a pas oublié. Et il remettra ça sur le tapis jusqu'à ce que « Papa !» Et c'est normal, ça ne va pas vous ennuyer, c'est votre enfant, et vous êtes son père. Il vaut mieux qu'il s'adresse à vous qu'à un autre quand même. Eh bien, nous c'est pareil, mes amis, nous c'est pareil, notre Père céleste. Là, il est dit, prie ton Père dans le lieu secret. Alors cela nous parle de notre communion personnelle avec le Seigneur, de notre intimité avec le Père. Et peut-être ce matin, au milieu de nous, des chrétiens qui ont perdu la communion avec Dieu. Je ne dis pas que vous êtes perdus, que vous allez en enfer, mais vous avez perdu cette fraîcheur, oui, ce contact que vous aviez il y a quelques mois ou quelques années avec le Seigneur. Vous priez, mais c'est plus ça, quoi. Bien, Dieu veut renouveler ça. Parce que ça, c'est vital. Ça, c'est notre capital spirituel, c'est notre richesse, c'est notre gloire. On ne peut pas faire sans, mes amis. J'aime la présence de Dieu. Je ne peux pas me passer de la présence de Dieu. Et quand je sens qu'il n'est plus trop là, je dis, Seigneur, oh, qu'est-ce qui se passe? Reviens, fais-moi grâce. Je veux toucher le bord de ton vêtement. Je veux entrer en contact avec toi. Sinon, tout le reste, c'est du blabla, du baratin religieux. Et on ne veut pas être des bigots, on ne veut pas ressembler aux pharisiens des évangiles, mais des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent Dieu comme leur Père. Dans le lieu secret, intimité avec le Père. Il faut savoir s'isoler pour être seul avec lui, comme le faisait Jésus. Vous avez vu dans les évangiles, Jésus, parfois le matin très tôt, le texte précise, alors qu'il faisait encore bien sombre, ou parfois le soir bien tard, il envoyait, j'allais dire, ses disciples promener, hein, et puis il restait seul avec le Père. Il faut savoir faire ça. T'as pas le temps. T'es dévoré par tes activités professionnelles ou tes responsabilités familiales. Prends le temps, mon frère, ma sœur. Trouve un moment impérativement. C'est plus important que le score de la France à l'Euro de football. Prends le temps, quelques minutes, un quart d'heure peut-être, plus si tu peux faire plus. Et sois seul avec Dieu. Il est ton Père. Et il te fixe ce rendez-vous. Demain matin, dans le lieu secret. Mais il faut y aller dans le lieu secret. Il ne faut pas qu'à ce rendez-vous divin, Dieu se retrouve seul. Parce que son cœur de père serait brisé, serait meurtri, serait déçu, serait affligé. Parce que toutes les fois que nous manquons nos obligations de chrétiens, Dieu n'est pas d'abord en colère, non. Ce n'est pas ça le premier effet du péché. Le premier effet du péché, c'est qu'il provoque dans le cœur du Père de l'affliction. Vous lirez ça dans la Genèse. Quand Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, son cœur fut affligé. Ensuite, il y a eu la juste sanction, le déluge et tout le reste. Mais la première réaction, l'affliction. Lorsque je néglige mon Père, lorsque je le laisse de côté, son cœur de père est affligé. Il m'est arrivé de visiter parfois des personnes âgées, de vieilles mamies ou de vieux papis, dans des maisons de retraite. Et je les voyais bien seuls. Et je leur disais, mais vous n'avez pas d'enfants? Si, ils habitent à quelques kilomètres là. Mais ils ne viennent jamais me voir. Et on sentait dans le cœur de ce vieux papa de l'affliction. Eh bien, mes amis, Dieu réagit de la même manière. Il est un père, je vous dis. Et il s'attend à ce que nous allions le rencontrer. Et même, que nous vivions constamment dans sa communion. Car, ce n'est pas seulement dans la chambre ou ailleurs qu'il faut rencontrer Dieu. Vous savez, on peut le rencontrer même au milieu de nos autres activités. En voiture, gardez les yeux ouverts quand même. Hein. En marchant, en faisant le ménage, en bricolant, je ne sais pas moi. On peut travailler de ses mains et puis avoir son cœur tourné vers Dieu. Et c'est ça aussi le lieu secret. C'est cela aussi. Quand nous disons « Père », et que ce n'est pas simplement un vocable, un terme, un mot, mais que c'est vrai, nous touchons son cœur. L'autre jour, je faisais une visite là, et dans une famille, et il y avait la maman, il y avait les enfants, les tout-petits, là, et le papa n'était pas encore arrivé du travail. Et puis tout à coup, il est arrivé. Et le tout-petit, là, le dernier, est arrivé vers lui, « Papa !» Mais j'ai senti que ce père, il était... Ah, oh, vous voyez, comme c'est bon d'arriver du boulot et de trouver son gamin qui... Hein, ça vous fait fondre, ça. Hein. Rappelez-vous, même si vos enfants sont adultes aujourd'hui, rappelez-vous, ces temps, alors que vous rentriez à la maison le soir, « Papa, ah, ça c'est bon, ça. » Nous touchons son cœur de père. Quelle émotion! Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui établit cette relation intime, privilégiée, unique avec Dieu. Il faut la vivre, cette relation. Comprenons que ce n'est pas ce qui se passe le dimanche matin de 10 à 12 dans ce lieu qui est le plus important. Ça doit être la conséquence de tout le reste. La conséquence. Mais il faut vivre cette relation avec le Seigneur, établie par le Saint-Esprit. Et nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, non mais vous n'êtes pas un peu prétentieux sur les bords, vous, chrétiens évangéliques, en disant comme ça, je sais que je suis sauvé. Non, parce qu'il y a quelque chose, non pas quelque chose, il y a quelqu'un en nous, en moi, qui me parle là, dedans, et qui me dit, mon gars, tu as bien des progrès à faire, hein, c'est pas brillant toujours. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es à moi. Je t'ai racheté. Je t'ai sauvé. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et, eh bien, être rempli du Saint-Esprit, finalement, c'est croître dans cette qualité de communion avec Dieu. Voyez ? Parce qu'il faut avancer dans ce domaine-là. Hein. Et j'aime ce verset de l'Épître aux Éphésiens qui dit que par sa puissance, celle de son esprit, qui agit en nous, il est capable de faire en nous, pour nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je n'ai pas fini de découvrir tout ce qu'il y a en Dieu. Je le connais un peu, mais encore si mal. Et il est capable de me faire croître, et vous aussi, dans la grâce, alléluia, dans la connaissance intime de celui qui veut être mon Dieu. Abba, Père. Ça suscite chez lui de la tendresse. Vous savez, dans le livre du prophète Malachi, qui est le dernier des livres de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le prophète dit ceci, « Ils seront à moi, dit l'Éternel, ils m'appartiendront, les croyants, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et il y a une autre traduction de ce même verset qui dit ceci, « J'aurai compassion d'eux comme un homme a de la tendresse ou comme un homme est tendre pour son fils qui le sert. » Ça fait bizarre, ça, de penser à Dieu comme un Dieu qui a de la tendresse, de la sollicitude, de la prévenance, de la délicatesse envers ses enfants. Il est le Dieu grand, il est le Dieu terrible, il est le Dieu tout-puissant, mais il est aussi pour ses enfants que nous sommes, ce Dieu plein de tendresse, répétons-le, de bienveillance, de délicatesse, le contraire de la dureté. Bien sûr, il y a l'autorité paternelle, mais qui va toujours de pair avec une profonde affection. Une profonde affection. Dieu, il est notre Père, et nous allons terminer par là. Alors nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le ciel. C'est vrai ça, le ciel, ça existe pour vous? Ou alors est-ce qu'on vit au ras des pâquerettes? Est-ce qu'il n'y a que les choses d'ici-bas qui nous intéressent? Le ciel, ce qu'on y pense des fois. L'éternité, la gloire. Non mais le bonheur parfait, intense, sans fin. Ça vous intéresse encore, vous, ça, le ciel? Ou alors, non, mes amis, on doit quelque part, bien sûr, vivre avec les réalités quotidiennes, mais on vit pour le ciel. C'est le but ultime, oui ou non? Si on n'a pas pour but d'aller au ciel un jour, qu'est-ce qu'on fait, là? À part se congratuler, bonjour, comment tu vas, hein, bonne semaine, et puis à la prochaine? Non, l'Écriture dit que les souffrances du temps présent, on l'a lu, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez, nos yeux s'ouvriront et nous serons émerveillés. Alléluia. Une année avec Hélène et nos filles, on a été à Disneyland. Je ne vous dis pas. Elles étaient émerveillées, moi catastrophée. J'espère qu'il n'y a pas d'Américains au milieu de nous, hein, mais ça sentait l'Amérique plein de nez. Hein. Ça me sortait par les narines. J'en pouvais plus de Mickey. Mais elles étaient babas. Émerveillées. Eh bien, mes amis, je crois que dans le ciel, on sera plus émerveillé qu'à Disneyland. Hein. Et loin s'en faut. Même moi, je serai émerveillé. Hein. Gloire à Dieu. Dieu, il est vraiment notre Père. Notre Père. Notre Père. Je termine, c'est promis. Hein. Je termine pour la dernière fois. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, dit le psaume 103, au verset 13 et 14. Car il se souvient que nous sommes poussière. Il est conscient de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Et il connaît les épreuves qui nous affectent. Il sait que ce n'est pas facile sur la terre, vous savez, parce que la condition humaine, Jésus l'a partagée avec nous. Il a vécu ce que nous vivons. Alors il sait que l'aventure humaine et terrestre, c'est une drôle d'aventure et parfois c'est une mésaventure. Hein. Et il n'est pas là avec un regard dur, sévère, alors, allez, secoue-toi, remue-toi, bouge-toi un petit peu. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un chrétien découragé, et puis un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Ce n'est pas le langage de Dieu, ça. Oui, il a ses exigences. Oui, il s'est manifesté son autorité pour nous corriger quand il le faut. Mais il se souvient que nous sommes poussière. On a tous nos fragilités, vous savez. Il y a parfois j'en connais des gens, on dirait des blocs de granit. Ils ont l'air solides, pas seulement physiquement, mais rien ne les émeut, rien ne les touche. Je me dis, mais ce gars-là, d'où il sort, hein? Parce que moi, je ne suis pas comme ça, mais vous savez, quand on entre un peu dans l'intimité des gens, même les plus costauds de chez costauds, on s'aperçoit qu'ils ont tous une petite fêlure. Je ne dis pas un petit péché, hein, mais quelque chose d'humain, quoi. Et comme disait un frère, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Voilà, mes amis, Dieu nous connaît. Il est notre Père. Bien sûr, en tant que Père, nous lui devons crainte, respect, désir de ne pas l'offenser, de ne pas l'affliger. Obéissance filiale. N'oublions pas tout cela. Mais il est notre Père. Il y a dans l'Ancien Testament cette histoire magnifique. Vous savez, de Méphibosheth. D'où il sort celui-là? Qui c'est ça? J'ai jamais entendu parler. Si, 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 rappelez-vous. Le fils de Jonathan. Lequel Jonathan était l'ami de David. Alors Jonathan, il est mort au combat. Et David est devenu roi. Alors il a cherché des descendants de Jonathan. Il en a trouvé un. Le pauvre garçon suite à une chute, il était infirme des deux pieds, il boitait, il était exilé là-bas, à l'au-de-bas, loin de partout, loin de la cour royale. Et David l'a fait venir, vous savez, quand on faisait venir quelqu'un qui appartenait à la dynastie précédente, d'habitude, en Orient, c'était pour lui couper la tête. Mais David le faisait venir pour lui le faire jouir de la bonté de Dieu. Et David lui dira, Méphibosheth, à cause de Jonathan, ton père, avec lequel j'ai fait alliance, désormais, tu mangeras tous les jours à ma table. Il est dit que Méphibosheth, il mangeait tous les jours à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Alléluia. Voyez, c'était un garçon qui avait souffert, il était orphelin très jeune, il avait eu cette malencontreuse chute, cet handicap, enfin, il avait tout faux, le pauvre garçon. Mais David a pris soin de lui, il l'a traité comme un fils. Mes amis, nous sommes tous des Méphibosheth. Hein? On a tous été brisés, on est tous boiteux de quelque part, vous ne trouvez pas? Mais Dieu nous a accueillis à sa table, nous mangeons à la table du roi, nous sommes fils du roi. Le roi, c'est mon père. Alléluia. Et mon père, c'est le roi. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. À Dieu soit la gloire, Seigneur.